new SBS music station is coming.
SBS Pop Euro.
Filled with Eurovision hits non-stop.
You want more?
Tune in from the 1st of May
on DAB Radio, online,
the SBS audio app
and SBS On Demand.
Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Vous écoutez le français sur Radio SBS.
Eh bien, c'est toujours un plaisir de parler de gastronomie à l'antenne de Radio SBS. Et là, on va parler de fromage, et un fromage de très haute qualité. Vous allez voir, c'est avec Gaëtan Chapon. Gaëtan Chapon qui est très connu, assez connu dans la communauté pour Long Paddock Cheese. Bonjour Gaëtan.
Bonjour Christophe.
Long Paddock, on vous voit un peu partout hein, quand on va dans les événements, quand on va dans les marchés. Et c'est Long Paddock est présent et surtout, ça surprend les gens par la... Je vais peut-être être lambda, mais ça surprend les gens par la qualité du fromage.
Oui, effectivement, on commence à faire un peu de bruit, pas seulement avec la communauté française, mais forcément australienne, qui est notre cible. Mais on a beaucoup de validation, on est très content de ce qu'on fait. On en a que 4 ans et demi, donc on est très jeune. Mm-hmm. Mais effectivement, on commence à faire un petit peu de remous dans le monde du fromage australien.
À 4 ans et demi, c'est une fromagerie, ça apprend à peine à marcher.
Exactement.
Ça prend du temps de monter une fromagerie.
J'ai un peu le sentiment qu'on court avant d'apprendre à marcher, là, pour être honnête.
Ouais, on tombe dedans quand on est petit, c'est quand on est français, le fromage, c'est une culture. On va pas faire les clichés, mais on grandit avec le fromage.
Bien sûr, voilà, je suis né dedans. Hein. Je viens de Savoie, à Chambéry, donc forcément avec
très belle région.
Très belle région. Forcément avec une famille amoureuse du fromage. À tous les repas, il y avait forcément un plateau de fromage avec 5, 6, 7 différents choix. Donc j'ai baigné dedans. Ouais.
Cette culture australienne, elle n'est pas nécessairement la même du fromage. Et je vais être
d'accord. Disons que les Australiens, c'est des vrais épicuriens. Ils sont curieux, des épicuriens, on peut dire aussi. Ils aiment la bonne. Ils aiment comprendre d'où ça vient, comment ça a été fait, s'il y a des raccourcis qui ont été faits, si c'est organique, si c'est local. Ils sont un peu chauvins aussi, forcément. Donc, le fait que Long Paddock, on ait un accent français, mais qu'on soit fait localement, ça aide beaucoup. Mais effectivement, il y a quand même pas mal d'éducation à faire, notamment le type de fromage qu'on fait sont assez spéciaux. C'est parfois un peu une licorne pour certains de ces Australiens qui n'ont pas forcément goûté à ça avant.
On parle de fromage qui ont du caractère.
Tout à fait. Ouais. Alors nous, on est dans la culture du goût. Effectivement, tout ce qu'on veut, c'est créer un wow factor à chaque fois que le fromage est dégusté. Et c'est vrai que c'est facile pour moi. Alors je suis le principal rep de Long Paddock Cheese, mais c'est vrai que la première mission que j'ai à faire, c'est de mettre le fromage dans la bouche des gens. Et la plupart du temps, c'est oh wow, I've never tried something like this. Oh, it reminds me France. So c'est exactement ce qu'on cherche à faire.
Je vais le dire et je vais être honnête avec vous. Moi, j'ai découvert Long Paddock à un événement de la Chambre de Commerce et il y avait un fromage qui était là et pour moi je me suis dit mais il est incroyable ce comté, d'où vient-il? Alors c'était pas du comté et surtout il venait pas de comté en fait, c'était le vôtre.
C'est exactement ça.
Et c'était ça ma réaction et je vais être honnête, la réaction était exactement ça, c'était mais il est incroyable ce fromage.
Merci.
Il vient d'où en France? Mais en fait pas du tout, il vient de Castlemaine.
Exactement. Et ben en fait la communauté française nous a découvert aux élections présidentielles, les dernières élections présidentielles, donc il y a un peu moins de 5 ans. Et la réaction, c'était « Oh, ils viennent d'où en France, ces fromages ?» Et on leur disait « Non, on est fromager ici, on fait ça localement, ça vient de Castlemaine, donc à 1h30 de Melbourne. » Et c'est vrai que d'ailleurs, l'ambassadeur français disait récemment « Je ferme les yeux, je goûte Long Paddock Cheese et j'ai l'impression que je mange un fromage français. » Ils m'ont eu plusieurs fois, mais non, effectivement, c'est un fromage australien.
Mais c'est une réalité,
français.
Ça. Ce qu'il a dit, c'est une réalité. Enfin, je fais pas la pub, on fait pas la pub ici, mais on va parler de goût, c'est de la réalité.
Merci. Non, mais c'est vrai, je suis d'accord. Bah, c'est ce qu'on essaye de faire, en fait. On avait pour souhait de créer des fromages qui nous rappellent un peu la maison, parce que c'est difficile de trouver des fromages en Australie qui nous rappellent un peu la maison sans avoir à importer. Et donc, du coup, on voulait recréer un petit peu ces goûts et ces saveurs. Ouais.
C'est difficile ou pas? Parce que, bon, le lait n'est pas le même, les ferments ne sont pas les mêmes. On va en parler, je crois que les ferments viennent de France, mais de construire un produit. Et donc, du coup, est-ce que c'est compliqué avec les ingrédients australiens ou il faut vraiment s'adapter?
Ah, faut vraiment s'adapter. C'est très compliqué. Et il a fallu faire preuve d'intelligence et de patience aussi, parce qu'il faut savoir que l'ingrédient principal du fromage, c'est le lait. L'Australie a du très bon lait, mais c'était très difficile de trouver du lait qui a des propriétés pour le fromage. Pas seulement du lait que les gens vont boire. Donc un lait qui est riche, qui a du terroir, qui a de la vie dedans, ça c'était compliqué. Il fallait que ce soit bio, il fallait que ce soit organique. Et donc ça a été difficile pour nous d'arriver avec nos gros sabots et notre wish list, comme on disait, pour certaines pratiques dans les fermes qui sont pas les mêmes qu'en France. En France, on a l'habitude de faire du fromage, en Australie pas vraiment. Donc ça, c'est la première difficulté.
Il a fallu aller rencontrer les producteurs, les fermiers et demander un produit un peu différent peut-être.
Alors oui, leur demander de faire des efforts, leur demander d'adapter un peu leur practice, leur façon de faire en fait. Et au début, c'était non. Catégorique, on va pas changer des générations de fermiers juste pour vous qui veut faire du fromage. Sauf qu'on leur a dit, si on vous donne un peu plus d'argent que la coopérative, est-ce que ça vous intéresse? Et là, forcément, ça a commencé à tiquer.
C'est l'Australie après, un money talk.
Exactement. Mais c'est vrai que nous, on avait pas mal de requirements, de souhaits, pour avoir un lait qui a des propriétés pour faire du fromage, qui coagule bien, qui a du goût, qui a de la vie. Et ça, c'était la première difficulté. Bon, une fois que ça a été fait, il fallait pouvoir avoir l'accès aux équipements. Il n'y en a pas ici, donc il fallait tout importer de France. Ensuite,
c'est cher. Enfin, c'est des équipements déjà, c'est énorme, donc c'est cher.
Tout à fait. Et puis, il n'y a pas du tout d'équivalent ici. Donc, même l'installation, c'était compliqué. On n'arrivait pas à trouver des électriciens qui puissent comprendre telle ou telle machine. On parle de Climinox, on parle de salles d'affinage qui ont des températures sous contrôle, mais aussi une humidité sous contrôle. Donc, très, très difficile, très technique. Et puis après, il fallait forcément adapter ses recettes. Adapter le sel. Ici, les gens aiment un peu plus le sel qu'en France, par exemple. Et puis, au niveau des cultures, donc au niveau de ce qu'on appelle les ferments, effectivement, t'as mis le doigt dessus, en Australie, il n'y a pas accès à beaucoup de ferments. Il y a 5-6 ans, il y avait accès à une vingtaine de ferments. Roqueforti, Penicillium, des white mold, ce genre de choses pour faire du bleu, du cheddar, un peu de camembert ou de brie style. Mais il n'y avait pas accès à beaucoup. Donc nous, on est arrivé avec Long Paddock, on est allé voir Biosecurity d'Australie, on a dit bonjour, on voudrait importer des microbes de France. Alors je vous laisse imaginer la réponse.
Vous en dites au revoir tout de suite.
Oui, merci, la porte est par là. Mais avec beaucoup d'administration, beaucoup de papiers, de paperasse, on leur a prouvé que ces ferments, ils sont natifs en Australie. Donc oui, on importe des ferments de France, mais ils sont aussi dans le terroir. Donc en fait, ils étaient juste pas disponibles pour inoculer et fermenter le lait, food grade. En fait, ils étaient pas disponibles pour faire de la nourriture, tout simplement.
Un peu les barrières.
Ouais, tout doucement. Le fait qu'on a réussi maintenant à ouvrir les ferments à l'Australie. Maintenant, l'Australie a à peu près 800 différents bactéries, yeast, mold, qui permettent de faire du fromage. Alors en France, on en a 2000, 3000. Italie, Angleterre, c'est des milliers. Mais ça nous a permis, avec beaucoup d'efforts, d'ouvrir un peu les horizons pour les fromagers, leur permettre de faire des fromages un petit peu différents, avec plus de diversité. Mais oui, tu as raison. Effectivement, c'est difficile, mais avec beaucoup de patience et puis de travail, on y arrive, quoi. Willstone, c'est un très bon exemple.
Ouais.
Qui a quand même démocratisé l'importation de certains produits au lait cru.
Ouais, notamment Roquefort. Ouais.
Tout à fait. Le Roquefort, c'est un très bon exemple. D'ailleurs, c'était assez marrant, les aventures de Willstead. C'est un très bon ami.
Il voulait... C'est un amoureux du goût.
Ouais, hein. Ouais. Il voulait faire, il nous demande de faire du fromage pour lui depuis très longtemps. Willstead, si tu m'entends, on t'aime beaucoup.
Est-ce que c'est plus simple en Australie de faire des fromages à pâte dure ou des fromages à pâte molle?
Une approche économique, forcément. Hein. Quel est le meilleur fromage à faire? Un fromage à pâte dure, ça demande beaucoup de maturation. Il faut les affiner dans des caves. Il n'y a pas forcément accès aux technologies.
Le temps, c'est de l'argent. Hein.
Exactement. Et on stocke des tonnes de fromages pour ensuite les vendre en espérant qu'ils soient bons. Les fromages à pâte molle, c'est un peu plus diversifié ici, en tout cas pour les fromagers locaux, parce que c'est plus facile à faire. Il y a une maturation plus rapide. C'est plus de l'instantané. C'est pour ça qu'on voit beaucoup plus de produits frais dans les supermarchés. Après, il y a une petite dérive des industriels locaux qui ont un peu dérivé les fromages à pâte molle, donc les fromages plus soft, en ajoutant beaucoup de crème, en ajoutant des subterfuges pour avoir des textures et des couleurs, notamment les doubles crèmes, triples crèmes. C'est très régulé en France, mais ici c'est un peu du n'importe quoi. On fait manger aux Australiens de la crème. Si vous regardez les Brie ou Camembert, par exemple, que vous trouvez en supermarché, retournez le label. C'est je veux pas critiquer,
mais ils
nous vendent de la crème, alors que à Long Paddock Cheese, nos pâtes molles, elles sont faites à partir de lait écrémé. On enlève un pourcentage de crème pour faire du beurre, parce que c'est délicieux.
J'allais y venir. Est-ce que vous vendez du beurre? Mais ça, on va y revenir.
On a du beurre de baratte délicieux. C'est notre or jaune, comme on l'appelle. Mais c'est vrai que ces pâtes molles qu'on fait nous, elles sont authentiques. C'est-à-dire qu'on enlève un peu de crème, donc les fromages ont plus de goût. Ils ont quand même une texture crémeuse, parce que une texture, c'est pas une question d'ingrédients, crème. Les gens pensent que pour avoir un fromage crémeux, il faut rajouter de la crème. C'est pas du tout le cas, mais c'est vrai que voilà, soft, hard, je dirais que les deux doivent être présents. À Languedoc, on fait 7 différents fromages. On a des semi-hard, on a des tomes, on a des pâtes pressées, on a un bleu type fourme d'Ambert. On
c'est
a,
de la raclette.
On a ouais alors ouais exactement. On a aussi un vacherin, on a un lactique un peu comme un Saint-Marcellin. Donc on s'est dit qu'il fallait pouvoir avoir une diversité fromagère qui déjà est une vitrine de ce qu'on peut apprendre aux gens, parce qu'il faut savoir qu'on est aussi une école, une sorte de formation, et en fait avoir 6 ou 7 différentes technologies très très différentes, ça permet forcément d'avoir un fromage qui va plaire à la personne en face de moi. Quand je suis en festival, en marché ou n'importe où, eh ben je leur fais tout goûter. Mais en général, ils disent « Ah, celui-là, c'est mon favori, celui-là, je l'adore. » Donc c'est vrai que là, je pense que la diversité est importante. Je ne dirais pas qu'un est meilleur que l'autre, mais c'est vrai que notre best-seller, c'est le Banksia, c'est celui que tu as évoqué plus tôt. C'est notre petit tome. Alors moi, je trouve que c'est plus un hybride entre l'abondance et la tome de Savoie, avec une croûte naturelle, et c'est vrai que c'est délicieux, mais c'est australien, on est fiers de dire que c'est fait localement.
Il y a un nom, un Banksia.
Exactement, le Banksia, c'est la fleur, et une fleur très orangée d'ailleurs, qu'on a appelé, on l'a appelé comme ça parce que dans nos salles d'affinage, les croûtes naturelles se développent et développent une couleur un peu orangée qui nous rappelle cette fleur. Et on est fiers de dire que nos fromages ont des noms australiens parce que c'est des fleurs, des minéraux et du bois. Parce que c'est un peu une reconnaissance du terroir australien qui finalement est très riche. Hein. Il y a beaucoup de choses super super intéressantes qui se passent au niveau moléculaire.
Si c'est peut-être pas être forcément chauvin, mais ils aiment battre les autres. Ils aiment battre les autres
vrai,
à leur propre jeu. C'est assez compétitif et on le voit dans le sport, on le voit partout. Mais quand un fromage australien gagne une médaille sur la scène mondiale, ça doit être quelque chose pour l'industrie. Ça vous est arrivé?
Oui, tout à fait. Bah, plusieurs fois d'ailleurs. 2024, on a gagné le International Cheese and Dairy Award. C'est la plus vieille compétition fromagère au monde qui se passe en Angleterre. Et nos fromages avaient en face d'eux des fromages français, suisses, anglais, italiens. Et le Banksia, le Driftwood et le Bleu a gagné médaille d'or à chaque fois dans leurs catégories respectives.
C'est un peu, désolé d'interrompre, mais c'est un peu un coup de tonnerre qu'un fromage australien gagne sur une scène internationale. Ça doit.
Ça fait du bruit.
Ça a dû faire parler un petit peu.
Oui, ça fait parler effectivement. Et puis t'as raison, il y a une vraie fierté des Australiens qui aiment bien gagner. Tout à fait. Plus récemment, on a regagné la même compétition en 2025. Mais moi, celle qui est chère à mon cœur, c'est le Mondial du fromage à Tours. Et c'est la première fois qu'un fromager australien gagne la médaille d'or. Une médaille d'or, parce qu'il y a plusieurs médailles d'or en France. Et d'ailleurs, c'était marrant parce que là-bas, ils disaient « Mais c'est qui Languedoc Cheese c'est australien ?» Et puis nous, on fait bah, « on est français aussi, mais on fait ça en Australie. » Et c'est vrai que c'était marrant. C'est les collègues. C'est
ouais,
les collègues.
Absolument. Ouais.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Vous parlez le produit, c'est pas juste il y a aussi la fabrication, mais quand on le fabrique nous-mêmes, on le comprend.
Tout à fait. Il y a cette part d'éducation effectivement dans le processus de fabrication, mais il y a aussi dans cette compréhension en fait de qu'est-ce qui est du bon fromage, qu'est-ce que c'est que du bleu, pourquoi il y a de la moisissure qui se développe. Tout ça, c'est des choses qui ici font un peu peur. Souvent,
il y a moisissure et moisissure.
Oui, alors évidemment, mais c'est vrai qu'ici ils voient du bleu sur un fromage, ils appellent la police, alors que nous en France on voit un bleu sur un fromage, on dit bah lui il a pas de conservateur, il est authentique, il va y avoir du goût, donc on aurait tendance à choisir celui-ci. Alors qu'ici, c'est un peu différent. Mais oui, la Cheese School, en fait, The Cheese School, c'était le projet initial. Et on voulait venir faire un centre de formation permanent. Après avoir eu plusieurs visites en Australie, mon business partner Yvan Larcher, c'est le cheese guru, le cheese whisperer, c'est lui en fait qui venait tous les ans en Australie pour faire des workshops, des sessions pour former les fromagers. Mais il s'est rendu compte qu'il y avait moyen de faire quelque chose d'un peu plus sérieux, un peu plus permanent. Et c'est pour ça que l'idée de la Cheese School est arrivée. Mais quand tu arrives dans un pays avec les gros sabots et avec tes connaissances, bah faut faire ses preuves quand même. Mm-hmm. Et on s'est dit, quoi de mieux que créer une fromagerie.
Et puis il y en a eu des Français qui sont arrivés voulant tout révolutionner dans toutes les industries.
Ça n'a pas toujours marché.
Ça n'a pas toujours marché.
Et là, l'idée, c'était de créer en fait une fromagerie une vraie fromagerie. C'est pour ça qu'on a créé Long Paddock Cheese, pour être cette vitrine et prouver au monde qu'on a, on est capable dans une toute petite fromagerie de faire 7 différents fromages, enfin 6 à 7 différents fromages, des produits frais, du beurre, du lait, du fromage, du caillé, et que ça fonctionne. Donc en fait, cette exposition, cette résonance que Long Paddock Cheese a, ça nous aide à la Cheese School. Mais la Cheese School, c'est pas que pour les professionnels. Donc forcément.
Moi, je peux venir.
Oui, exactement. C'est ouvert pour le public les week-ends. Et d'ailleurs, c'est tellement populaire qu'on a du mal à avoir assez de classe. On est en général bien réservé 4 à 5 mois à l'avance.
Ok, d'accord.
Mais c'est des bons problèmes à avoir. On a vraiment cette popularité qui grandit et grandit. Et maintenant, il faut s'adapter. Comme je disais, on a l'impression de courir avant de marcher, mais on s'adapte et puis on ouvre un petit peu plus de classes. Et c'est vrai que c'est super intéressant.
Qu'est-ce qui vous ferait rêver pour 2026-2027? Qu'est-ce qui serait une bonne année?
Qui était une très belle première année où on a vraiment réussi à atteindre nos objectifs financiers en termes d'exposition. On a l'ambassadeur de France qui a donné à Yvan, mon business partner, la médaille de l'ordre du mérite agricole, qui était quelque chose de sympa. On a gagné plusieurs compétitions. Donc peut-être faire une année similaire. On voudrait valider, en fait. On voudrait consolider un petit peu tout ce qu'on a fait. C'est vrai qu'on a beaucoup couru. On a fait beaucoup de choses à droite, à gauche. Et en fait, j'aimerais bien maintenant pas nous reposer sur nos acquis, mais consolider un petit peu ce qu'on a fait, continuer à rencontrer du monde, aller voir du monde, à leur donner du fromage et faire plaisir aux gens, en fait, tout simplement.
Ouais, ça c'est quand on est dans votre position, on a beaucoup d'amis, non?
Oui, oui. Merci.
SBS Food a tous les ingrédients pour votre prochain repas. Vous y trouverez des milliers de recettes issues des cuisines du monde. Essayez les petits plats des experts de SBS Food. Et regardez comment ils les réalisent pas à pas. sbs.com.au/food.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.
SBS Music Station is coming.
SBS Pop Euro.
Filled with Eurovision hits non-stop.
You want more? Tune in from the 1st of May.
On DAB Radio, online.
The SBS Audio app.
And SBS On Demand.